Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous allons lire dans Galates au chapitre 3, quelque chose qui a été dit dans ce dernier cantique. Quelle grâce que le Seigneur Jésus ait pris notre malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Oui, le Seigneur, il a pris la malédiction pour nous bénir. Il y a quelqu'un qui veut être béni cet après-midi? Ouais. Et je peux vous dire que c'est sa volonté. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je le relis s'il vous plaît. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, il se trouve qu'un incident s'est produit un jour de baptême. Tout le monde se faisait baptiser, les gens voyaient les autres se faire baptiser, alors ils se faisaient baptiser. Jean-Baptiste ayant la pensée de Dieu, il va parler à ceux qui venaient prendre le baptême d'une manière particulière. C'était des religieux, c'était des gens qui avaient une religion. Matthieu, chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà la prédication de Jean-Baptiste. La prédication d'un homme de Dieu qui voyait le cœur des gens, dans quel état d'esprit ils venaient. C'est une question qui a été adressée à des religieux, mais c'est une question que Dieu adresse à tous les hommes. Cette question, elle, si elle est dans la Bible, elle s'adresse à tous les hommes. Vous rendez compte, cette question, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Christ nous a rachetés de la malédiction, mais la colère à venir, elle vient. Cette grâce nous est proposée et de notre côté, on sait que la colère de Dieu, elle vient. Hier, j'ai lu tout l'Apocalypse, c'est incroyable le nombre de fois où il est parlé de la colère de Dieu. Le moment où Dieu va arrêter la grâce et la colère de Dieu va venir sur la terre. Et cette question, elle devrait nous faire à tous réfléchir. Ce n'est pas un message peut-être qui fait sauter de joie les gens, mais ça nous permet à tous de réfléchir et de dire, mais qu'est-ce que je fais du salut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller à l'église tous les dimanches? Ouais. Il y a des exhortations dans la parole de Dieu qu'il faut entendre. Beaucoup de gens ne sont pas du tout au clair. Hier, tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'une personne pareille qui m'écrivait qu'en écoutant une prédication, elle a compris qu'il fallait être sérieux avec toutes les injonctions de Dieu. Est-ce que c'est important la parole de Dieu? Oui. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Où en êtes-vous avec Dieu? Cet après-midi, si on me disait, mais où vous en êtes avec Dieu? Qu'est-ce que vous répondriez? Hein? Si on vous posait la question, est-ce que vous êtes sauvé ou non? Hein? Oui? Non, mais c'est bien, il y en a une qui est sauvée. C'est déjà bien, ça prouve comme ma prédication. Êtes-vous converti ou non? Est-ce que tous les chrétiens sont convertis? Est-ce que tous les chrétiens sont nés de nouveau? Est-ce que les chrétiens ont tous la paix? Oui, c'est des questions qui sont là. Quand il est dit, avez-vous fui? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a plein de questions comme ça que l'on pourrait poser. Êtes-vous sous la grâce de Dieu? ou sous la colère divine. Quelqu'un dira, mais moi, je ne sais pas. Et déjà, ils ne savent pas où ils en sont. Ils vont à l'église, mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans le péché. Voilà. Êtes-vous béni ou êtes-vous maudit? Alors, vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette question? Cet après-midi, il est fatigué. Écoutez-moi bien. Ce sont des questions qu'il faut poser. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. Est-ce que vous êtes béni ou est-ce que vous êtes maudit? Est-ce que c'est une question qui tient debout? Bien sûr que oui. Est-ce que vous avez cherché refuge auprès du Sauveur? Est-ce que vous pouvez dire, oui, Jésus-Christ est mon refuge? Il y a des gens qui disent, mais non, je suis éloigné de Dieu. Ce matin, il y avait plusieurs rétrogrades qui disaient, mais on a abandonné Dieu. Ils voulaient de nouveau retrouver ce refuge. Donc la question que Jean-Baptiste a posée, ce n'est pas pour nous énerver ou pour nous fatiguer. C'est des questions que Dieu pose. Pourquoi? Pour nous éclairer sur notre condition spirituelle. C'est important. Peut-être que vous pourrez répondre, mais tout va bien. J'ai accepté Jésus, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je sais une chose, comme dira l'aveugle, j'étais comme ça, et puis maintenant j'y vois. Peut-être que vous pouvez dire, oui, je marche dans les chemins de Dieu, je connais la parole, je suis attaché au Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu, continuez. Alléluia. Peut-être que vous pouvez dire, oui, eh bien c'est bien. Peut-être que vous pouvez dire cet après-midi, oui, ça va, je marche, je le connais, je lui ai donné mon cœur. Ce qu'on a chanté, c'est une vérité. Je suis sur ce chemin de victoire, je vais aller au ciel. La bénédiction de Dieu est dans ma vie. Oui, je suis un homme béni. Peut-être que quelqu'un peut le dire. Je suis béni. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes bénis. Il a dit oui ou non? Et il a dit à d'autres, une catégorie, retirez-vous de moi, maudit. Des gens qui ne pensaient pas l'être, mais qui l'étaient. Alors si vous êtes sauvés, eh bien continuez. Continuez à le glorifier, continuez à le servir, continuez à l'honorer, continuez à l'aimer. Voilà. Mais tous ne peuvent peut-être pas répondre cet après-midi par cette affaire affirmative. Peut-être que vous êtes sous le coup de la colère, que vous... Il y a des gens toute leur vie, je vous donne un exemple. Il y a des gens toute leur vie, ils cherchent une église accueillante. Une église sympathique, une église gentille. Il y a des gens, ils changent d'église tous les 3 ou 4 ans, ils cherchent une église. On n'a pas besoin d'une église gentille. On a, bien sûr, que si je, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a besoin d'un sauveur. Ce que les gens ont besoin, c'est d'un sauveur. Tant mieux si les chrétiens sont gentils, c'est évident. Et les chrétiens qui sont vraiment spirituels le sont. Ils ont le cœur plein de miséricorde également. Mais nous avons besoin d'un sauveur. Ce que vous avez besoin cet après-midi, c'est de dire « Oui, Jésus est mon sauveur. Il est mon sauveur. » Alors peut-être que vous ne pouvez pas répondre par l'affirmative et dire « Mais moi, je ne sais pas où j'en suis. Je suis vraiment perdu. Je vais à l'église, mais je ne sais pas où j'en suis. » Eh bien, demandez au Seigneur un cœur ouvert. Ce n'est pas comme ça que ça peut commencer. Demandez au Seigneur des oreilles attentives. Donne-moi des yeux ouverts. Ce soir, je vais lire ta parole, mais je vais la lire avec mon cœur. Je vais être sérieux avec les commandements de l'Écriture. Ah, les commandements. Oh, moi, j'aime pas lire les commandements. Ça me fait peur, dira quelqu'un. C'est sûr que quand on lit les commandements, on est tous pécheurs. Vous lisez les 10 commandements et tous, vous êtes conscients que ça va pas. Qu'on les a tous transgressés. Oui ou non? On est tous conscients que, même si on peut se comparer aux autres, mais moi, je suis pas un criminel. Ah, moi, j'ai jamais tué quelqu'un, donc je ne suis pas si mauvais que ça. Peut-être quand même que je suis bien. Et il y a des gens comme ça qui passent leur vie à se comparer aux autres. Est-ce que c'est bien de se comparer aux autres? Et non, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'on a besoin, c'est de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous sommes tous en porte-à-faux avec Dieu si nous n'avons pas Jésus-Christ. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas de se faire baptiser. Bien sûr que la personne qui est vraiment convertie, elle a besoin de se faire baptiser. Elle a besoin de s'engager avec Dieu. Mais vous avez vu, là, dans ce cas de figure, Jean-Baptiste leur dit, mais qui vous a appris à fuir? Produisez du fruit. Le fruit, c'est le fruit de la repentance. Est-ce que je suis vraiment dans la grâce? Est-ce que vraiment je suis à l'abri? Noé, il était à l'abri, oui ou non? Ah oui, il était à l'abri. Pourquoi il était à l'abri? Parce qu'il était rentré dans l'arche. Et si nous ne sommes pas rentrés dans la grâce de Dieu, si nous ne sommes pas rentrés au calvaire, si nous ne sommes pas rentrés à la croix, nous sommes sous le coup de la colère divine. Et la colère, elle vient. Vous allez me dire, ouais, mais ça a été écrit quand ça? Il y a 2000 ans? Mais tu rêves, c'était une blague. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une blague. La colère de Dieu, elle vient. Et quand elle va venir, la colère de Dieu, laissez-moi vous dire qu'il vaudra mieux s'être mis à l'abri et de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Pour ça, il faut aller au calvaire. C'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une question de se comparer. Oh, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Oh, mais lui, c'est un plus grand pécheur que moi. Moi, je n'en ai pas besoin. Vous avez besoin du salut. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de fuir la colère de Dieu. Parce que cette colère, elle vient. Et laissez-moi vous dire que quand elle va venir, on ne va pas rire. Ils vont pas rire. Parce que moi, je ne serai plus là. Est-ce que vous serez là, vous? Est-ce que vous serez là? Parce que c'est ça la question. Est-ce que vous serez là? Quand la colère de Dieu viendra, vous avez vu dans l'Apocalypse? Lisez l'Apocalypse. Je sais que bien que beaucoup de gens ne comprennent pas tout, mais ça ne fait rien. Quand vous l'aurez lu 250 fois, vous comprendrez mieux. Et en plus, je le pense. En plus, je le pense, même au bout de 150, hein, vous verrez. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, il y a l'ouverture des sceaux. L'Église a été enlevée. Et tout d'un coup, la colère de Dieu vient. Et il y a une question qui est posée. Ah, oh, c'est terrible ce qui va se passer. Regardez au verset 16, il y a des fléaux qui s'abattent sur la terre, terrible. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est rien à côté de ce qui va arriver. Apocalypse chapitre 6, là les gens, regardez ce qu'ils disaient suite à un fléau. Et Apocalypse 6 verset 16, ils disaient aux montagnes et rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Oui, la colère de l'agneau. On pourrait dire un agneau, vous avez déjà vu un agneau en colère vous? Est-ce que ça existe un agneau qui se met en colère? Non. Mais Dieu a utilisé cette expression justement pour que nous comprenions bien que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, mettra un terme à la grâce. Regardez, question. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voilà la question de Dieu. Qui pourra subsister? Eh bien, à ceux qui sont sous le sang de Jésus-Christ. Voilà qui subsistera. C'est pour ça que vous devez répondre, oui ou non, je suis couvert par le sang du Seigneur. Regardez le deuxième fléau. Verset 3. C'est grave, parce que cette semaine, on a vu quelque chose de terrible dans une famille. Vous savez cet homme qui a tué les quatre membres de sa famille là. Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a la paix. Vous le comprenez ou pas, en tout cas, ceux qui l'ont, ils le savent. Il y a la paix. Le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, pourquoi? Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand l'Église sera enlevée, ce qui s'est passé dans cette famille-là, je ne sais pas où, en France, là. Vous savez, il y a un homme avec un pied de biche qui a tué les quatre membres de sa famille. Ça sera multiplié à l'infini sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus la paix. On aura rejeté le prince de paix, on ne voudra pas Jésus. Et ce n'est pas pour faire peur aux gens. On pourrait prendre d'ailleurs, on pourrait le faire de manière solennelle, prendre tous les textes sur la colère qui vient et toutes ces choses qui attirent la colère de Dieu, tout ce que nous voyons, toutes les lois impies qui ont été votées dans notre pays, ce sont des lois abominables, comme le mariage pour tous, etc. Ce sont des lois impies. Et la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, sur les rebelles, sur les gens qui tolèrent ces choses, sur les gens qui acceptent ces choses. Les gens, ils ne croient pas. Jean-Baptiste, mais c'est une blague, ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Regarde s'il y a la colère. Mes frères et sœurs, de la même manière que la porte de l'arche s'est fermée, la porte de la grâce va se fermer. C'est pour ça qu'il faut fuir la colère. Le seul moyen, c'est de se réfugier dans le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on s'est réfugié à la croix, là où la malédiction est tombée, puisque Jésus a pris notre malédiction, elle n'y est plus. Et si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction sur vous, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça que c'est une question que doit prendre avec beaucoup de sérieux. Et c'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas familier avec l'Apocalypse, mais ça vaut quand même la peine de voir tout ce qui va arriver après l'enlèvement. Ces milliers de gens qui n'étaient pas prêts, qui ont entendu des messages comme celui-ci et qui ont pris ça à la légère. Oui, la grâce, oui, la colère, peut-être que c'est loin, c'est peut-être dans 100 ans, et puis, mais demain ne vous appartient pas. Est-ce que ça peut être le dernier message que vous entendiez? Est-ce que ça peut être la dernière fois que vous entendez l'appel de Dieu? Mais c'est souvent arrivé. Mais je dis ça parce que je sais qu'il peut se produire que ce soit la dernière fois qu'on entende un message sévère, plein d'amour, mais un message parce que notre vie ne nous appartient pas. Et que, béni soit Dieu, lorsqu'on l'accepte comme ça, à la sortie du culte, on dit, mais oui, vous avez raison, c'est peut-être la dernière fois. Moi, je ne savais pas, mais ça s'est passé le lendemain. Parce que c'est sérieux, lorsque Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut nous parler, il veut nous interpeller, il veut nous faire réfléchir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a des gens qui ne supportent plus des prédications comme ça. Mais cette question, elle n'est pas là pour nous ennuyer, elle est là pour nous éclairer. Et vous devez pouvoir dire cet après-midi, oui, j'ai accepté Jésus-Christ. Il a pris le châtiment pour moi. Oui, là, c'est de l'amour. Parce que des fois, on peut dire, oui, il parle de l'enfer, il parle du paradis, il parle de la grâce, il parle de la colère. Mais c'est quoi le plus important, en fait? C'est quoi le plus important? Soyons honnêtes. C'est quoi le plus important? Entendre parler sur la grâce ou entendre sur la colère? C'est quoi le plus important? Ben les deux. Il faut entendre parler des deux. Dieu ne bénira que son message, de toute façon. Mais si je ne parlais que de la grâce, que tout va bien, tout va très bien, tout le monde ira au paradis. Bientôt, on pourra inviter Michel Polnareff dans les églises. Moi, je peux vous dire qu'il y a des églises, ils pourraient l'inviter. Et chanter, on ira tous au paradis. Vous connaissez? Et moi, ça me fait pas rire parce qu'il y a des gens qui le croient. Il y a des gens qui le croient. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas le message de l'amour de Dieu. Ça, c'est un message qui vient de l'enfer. Le message de l'amour de Dieu, il dit « prépare-toi ». Prépare-toi à rencontrer Dieu. C'est sérieux. Ce n'est pas une question d'aller à l'église le dimanche. Ce n'est pas une question d'être un pharisien ou des sadducéens. Quand vous regardez ces gens dans la Bible, c'était ceux qui avaient la religion la plus pointue à l'époque. Et voyez, ils en arrivaient même à prendre le baptême pour prendre le baptême. Et il a fallu à un moment donné une parole sévère. Mais qu'est-ce qui t'a appris? Est-ce que tu réfléchis? Et je vous pose la question. Est-ce que vous allez aller au ciel? Ou est-ce que vous allez aller en enfer? Est-ce que Jésus vous dira, viens, rentre, toi qui es béni? Ou est-ce que Jésus devra vous dire, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que Jésus devra vous dire, retirez-vous de moi, maudit? Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais c'est pas possible. Eh bien, disons-le, Matthieu 25. C'est pas moi, c'est écrit, vous savez. Dieu bénit que sa parole. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Quand on passera devant Dieu, il n'y a que ça qui restera. Sa parole, Matthieu 25, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte? Au verset 34, Jésus parle à une catégorie de personnes. C'est ça l'évangile. Où on est béni, où on est maudit. Où on est sous la grâce, où on est sous la colère. Où on ira au paradis, où on ira en enfer. Il n'y a pas d'autre situation. Matthieu 25, 33. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis. Ah, ça c'est bien. Ça vous plaît ça? Est-ce que ça vous plaît? Eh bien oui, ça nous plaît. Vous qui êtes bénis. Voilà, vous qui m'avez accepté, vous qui avez pris ces choses au sérieux, vous qui avez été intelligent lorsque vous avez entendu un message sur la croix, vous qui avez compris que le Fils de Dieu avait versé son sang au calvaire. Voilà, c'est ça la bénédiction. Venez, vous qui êtes bénis. Oui, il y a des gens qui sont bénis et il y a des gens qui resteront bénis jusqu'à la fin. Mais regardez au verset 41, c'est terrible. C'est pas moi qui le dis. Si c'était moi, vous diriez, bon, c'est Monsieur Gauss, c'est pas important. C'est vrai, mais qui c'est qui parle là? C'est Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle parole! Quelle parole! Peut-être que vous ne l'aviez jamais lu, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais de toute façon, ça sera l'un ou l'autre. Où vous êtes bénis, gloire à Dieu. La grâce de Dieu est sur vous. Vous continuerez couverts par le sang du Seigneur. Vous vous attacherez à lui, vous marcherez dans la sainteté, vous serez avec lui. Et s'il devait vous reprendre la semaine prochaine, eh bien vous partirez porté par les anges dans le sein d'Abraham, dans la gloire de Dieu, attendant ce moment où vous recevrez vos récompenses. Quel bonheur! Oui, venez, béni, vous qui êtes béni. Mais quel malheur de lire ça, rien que de le lire déjà. Rien que de lire une parole comme ça. Vous avez déjà entendu quelqu'un maudire quelqu'un? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire « je te maudis » Moi, j'ai entendu déjà. C'est terrible, non? Vous ne trouvez pas que c'est terrible? De la bouche d'un homme, un homme qui maudit son fils, qui ne veut plus le voir, qui le rejette. Rien que dans la bouche d'un homme, ce mot est vraiment malheureux. Mais dans la bouche du Seigneur, vous ne trouvez pas que ça a un poids encore plus profond? Que Dieu devra dire à des gens « retirez-vous de moi ». Retirez-vous de moi, maudit. Vous n'avez pas pris ces choses au sérieux. Oui, vous aviez une religion. Oui, vous avez pris le baptême. Oui, ceci, oui, cela. Mais vous n'êtes jamais passé par la repentance. Jamais vous n'avez donné votre cœur au Seigneur de gloire. Oui, ces paroles, elles sont remplies d'amour. Plus que tout un sermon de 3 heures sur la paix. Vous avez un sermon de 3 heures sur la paix, tout va bien, mes enfants, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va très bien. Vous croyez que c'est rempli d'amour, ça? Il vaut mieux un message qui corresponde aux besoins. Oui, Jésus-Christ a été fait malédiction, pour qu'on n'ait pas besoin d'entendre ça. Vous avez vu cette parole affreuse? Jésus-Christ a été fait malédiction. C'est pour ça que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Parce que pour eux, c'est impossible que le Sauveur du monde soit maudit. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'Évangile, c'est un mystère. La Bible parle des mystères de l'Évangile. Et le mystère, c'est que Jésus viendrait en deux fois, en fin de compte. Une fois comme le Sauveur, une fois comme le Roi de gloire. En attendant, il est souverain sacrificateur et il intercède pour nous et il prie pour vous. Gloire à Dieu. Quel bonheur. Bientôt, il sera le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il l'est. Mais de facto, il le sera pendant la tribulation. Il viendra chercher, il viendra régner sur la terre. Gloire à Dieu, il sera le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. En attendant, sachez qu'il prie pour vous. Voilà. Vous vous moquez de lui, vous ne vous intéressez pas à lui. Et bien moi, je vous dis que le Seigneur, il intercède pour vous et moi. Alors, qu'est-ce que vous entendrez? Où vous êtes? Vous devrez rentrer chez vous tout à l'heure et dire, mais je dois savoir où je suis. Ce n'est pas moi qui peux répondre à votre place. C'est vous qui devez dire, oui, je suis couvert par la grâce. Je suis couvert par le sang de Jésus. J'ai fait un acte de foi. Je lui donne ma vie. Je veux produire du fruit. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est sauvé? Eh bien, il y a des fruits de la repentance. Ce n'est pas compliqué. S'il n'y a pas de fruits, c'est que vous n'êtes pas sauvé. S'il y a peut-être une adhésion, comme disait M. Lafayette, les gens ils rentrent par la fenêtre, vous savez, mais il n'y a qu'une porte, c'est Jésus la porte. C'est Jésus la porte, je suis la porte. Si vous voulez entrer au ciel, la seule porte qui existe, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus. Il ne dit pas la vérité, il est la vérité. Et la vérité, c'est que sans lui, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors est-ce que vous êtes sous la grâce ou sous la colère? Heureux êtes-vous si vous êtes sous la grâce. Restez-y surtout. Restez-y parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le royaume et qui en sont sortis. Vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés? Et quand la porte va se fermer, on va terminer avec cette prophétie qui fait peur. Elle fait peur cette prophétie, même c'est bien de la lire. Vous savez? C'est une prophétie moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à mon ministère pastoral. Parce que les pasteurs souvent ne réalisent pas qu'il faut dire ces choses. Regardez cette prophétie. C'est une prophétie incroyable. Elle concerne les rétrogrades. Luc 13, 22. Des gens qui étaient sous la grâce, dans le pardon, qui étaient dans le bonheur, sous le sang du Seigneur et qui s'en sont éloignés. Luc 13, 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc il allait au calvaire. Il allait au calvaire. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ce n'est pas une question qu'on se pose ça. Hein. Il leur répondit, « Efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison, c'est Dieu, se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh oui, on peut dire amen. C'est triste, mais on peut dire amen. Amen, pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Efforce-toi d'entrer dans le royaume. C'est pas Dieu qui va te forcer, comme me disait quelqu'un un jour. Eh ben c'est Dieu qui choisira. Je dis non, il a déjà choisi. En mourant sur la croix, il veut que tu ailles au ciel. Mais c'est à toi de t'efforcer. Il ne te forcera pas. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup, c'est un adverbe qui signifie beaucoup de personnes, un grand nombre, voilà, beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Oui, on a mangé avec toi, on était à l'église, on lisait notre Bible. Ça ne suffit pas. Il faut passer par la repentance. Il faut passer par la conversion, il faut passer par la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. On va fermer les yeux. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi j'ai besoin du salut, moi j'ai besoin de grâce, moi j'ai besoin de paix, j'ai besoin de la guérison, gloire à Dieu. Et ce message-là, Dieu le bénit, mes frères et sœurs. Fermons les yeux, peut-être quelqu'un a besoin d'être guéri dans son corps. Est-ce que Dieu est là, on l'a chanté tout à l'heure, est-ce que Dieu est là pour guérir, consoler, restaurer, sauver? Alléluia, moi je le crois. On reste recueilli, on est conscient. Le Seigneur a donné sa parole pour bénir, pour guérir, pour sauver. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade. Et pourquoi il ne vérifierait pas que Jésus-Christ guérit les malades? Il y a quelqu'un qui n'a pas la paix. Et pourquoi il ne vérifierait pas que Jésus donne la paix? Nous sommes sérieux. Ces choses-là, elles sont la vérité. Oui, le ciel passera. La terre passera. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait quand même un gros truc, ça. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Lorsqu'on sera dans le ciel, il y a une chose qui restera, c'est sa parole. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de son sang, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de la croix, j'ai besoin de revenir, je vis dans le péché. Tout à l'heure je recevais un mail d'une dame aussi qui me disait, mais ma sœur elle est retombée, elle va en boîte de nuit, elle boit, elle était chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut venir sur le devant et dire « Je veux expérimenter la grâce, le pardon, la guérison. » Nous sommes recueillis, c'est un moment important. On va rechanter ce petit cœur, Dieu est là. Dieu est là. Oui, il est là le Seigneur. Il est là pour consoler, il est là pour guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Mais moi je veux être guéri, mon corps est malade. » Eh bien, venez, on va prier pour vous. Venez, le Seigneur, il est là pour guérir, il est là pour relever. Alléluia, oui, Dieu est là.